Il est 18h, vous êtes sur Europe 1.
S'il y a des pays qui maintiennent leur station de ski ouverte, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives.
Emmanuel Macron veut dissuader les Français d'aller skier à l'étranger pour les fêtes de fin d'année.
Oui, sachant qu'en France, les remontées mécaniques seront fermées.
Bonne idée, lui répond ce soir sur Europe 1 le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. On l'écoutera.
Le chef de l'État qui commence à dessiner la stratégie de la campagne de vaccination contre la Covid.
Si tout va bien, le grand public pourra se faire vacciner entre avril et juin.
L'affaire Fiona dans l'actualité également ce soir. Quatrième procès pour la mère et le beau-père de la petite fille disparue il y a plus de 7 ans à Clermont-Ferrand.
Et la métamorphose troublante de Cécile Bourgeon qui a refait sa vie.
Au sommaire également, la recrudescence de suicides dans le monde agricole. Un rapport prône un accompagnement des agriculteurs en souffrance et la formation de citoyens sentinelles.
Et puis deux héros sur un bateau. Le premier est tombé à l'eau. Le second a volé à son secours, bien sûr, solidaire, en solitaire. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 1,14% à 5581 points.
Et puis la tendance météo. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Un temps très nuageux au programme demain.
Oui, nous aurons demain un plafond gris au-dessus de la tête toute la journée. Et cela va concerner les trois quarts de la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne pourra donc pas skier à Noël en France, ça on le savait déjà, et bien à l'étranger non plus a priori.
Oui, Emmanuel Macron ne veut pas que les Français accros à la glisse aillent s'adonner à leur passion hors de nos frontières.
Le président l'a dit cet après-midi, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, c'était à l'occasion d'une conférence de presse avec le nouveau Premier ministre belge. Interrogé sur la perspective d'avoir des stations de ski ouvertes à quelques kilomètres de la frontière française, alors même que nos propres stations seront fermées à Noël, eh bien le président l'a précisé, il compte dissuader les Français de s'y rendre.
S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives.
C'est donc une mise en garde, une déclaration d'intention dans un contexte particulier. L'Autriche, la Suisse et dans une moindre mesure l'Espagne ne prévoient pas forcément de fermer leur station à Noël. Des discussions restent en cours parfois au niveau local, mais à défaut de pouvoir contraindre nos voisins à fermer leur station, Emmanuel Macron envoie donc un message aux skieurs français. N'allez pas goûter la poudreuse de nos voisins. Selon nos informations, la possibilité d'une quarantaine est évoquée pour toute personne qui reviendrait de ces zones. Est-ce suffisamment dissuasif, suffisamment restrictif pour reprendre les mots du président? Par ailleurs, est-ce réaliste d'un point de vue des contrôles alors qu'aujourd'hui les frontières ne sont pas fermées avec nos voisins? Il y a encore beaucoup de questions derrière cette affirmation du président.
Effectivement, Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Oui, des sanctions pour les Français qui iraient skier en Suisse ou en Autriche. Pourquoi pas, réagit Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne.
Qui est également président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Pour lui, il n'y a pas de raison qu'on ferme côté français et que ce soit open bar de l'autre côté des frontières.
La proposition qui est faite par notre président de la République me paraît juste et vraiment en tout cas justifiée en ce qui me concerne, parce qu'on avait vu là depuis quelques temps des campagnes de communication destinées à la France, notamment de nos amis suisses, qui expliquaient qu'ils étaient prêts à mettre des bus pour venir chercher des clients à Châtel, donc Châtel en Haute-Savoie, les emmener skier la journée sur leur domaine skiable et les ramener le soir dans leur résidence en Haute-Savoie à Châtel. Et ça, on trouve ça totalement anormal. C'est d'abord un problème sanitaire avant toute chose parce que les stations françaises, on va mettre en place un protocole qui va permettre de protéger une grande partie de la population vacancière et surtout notre population saisonnière. Et c'est pas pour que nos vacanciers, ils aillent attraper cette maladie dans un autre pays et reviennent la propager dans le nôtre. À un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi et notre président vient de rétablir cela et on l'apprécie.
Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock.
L'autre annonce du jour signée Emmanuel Macron, elle concerne la stratégie française de vaccination contre la Covid-19.
Oui, le chef de l'État évoque pour la première fois une date. Il table sur une vaccination du grand public au printemps prochain et confirme bien sûr que les résidents des EHPAD seront prioritaires.
Et entre fin décembre et début janvier, vraisemblablement, il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de première génération sur lesquels on a peu de recul, dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, moins 80 ou moins 20 degrés à ce stade des conditionnements, et qu'on va plutôt réserver sur les publics les plus sensibles. Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui elle sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence.
Bonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir. Chef du service politique d'Europe 1. Alors des annonces sur le vaccin, des annonces sur le ski. Pourquoi cet après-midi à l'Élysée à l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre belge ?
Eh oui, imaginez la scène. On est effectivement à l'Élysée à l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre belge et on aborde aussi les sujets donc européens et bilatéraux. Mais on est également au lendemain du sévère recadrage présidentiel dans son bureau pour sortir du fiasco et de la crise autour du texte sécurité globale. Et là, face aux journalistes, Emmanuel Macron a décidé de faire deux annonces fortes. Effectivement, il envisage de lancer la campagne massive de vaccination et parle de mesures dissuasives sur la pratique du ski à l'étranger. On a entendu parler effectivement de mise en quarantaine pour ceux qui iraient skier ailleurs. Deux annonces qui font bien sûr réagir. Pour le président de la République, il s'agit en fait de recentrer le débat sur d'autres terrains que la crise au sein de la majorité, loin, il faut le dire, des premières préoccupations des Français. Depuis quelques semaines, les conseillers d'Emmanuel Macron préviennent de son intention de se montrer très réactif en se montrant à l'écoute de ce que le président appelle les pulsations de la nation. Entre son message Facebook après le passage à tabac du producteur de musique par des policiers, le savon passé au ministre, les annonces d'aujourd'hui et une interview après-demain destinée à la jeunesse, aucun doute, Emmanuel Macron a décidé d'être sur tous les fronts.
Ça s'appelle aussi faire diversion, Mickaël Darmon.
Et manifestement, c'est réussi.
Merci, chef du service politique d'Europe 1. Le deuxième jour du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes.
Au lendemain de débats procéduraux, cette fois, le tribunal correctionnel de Paris a commencé à examiner le fond de l'affaire. On y reviendra dans notre journal de 19h.
Un quatrième procès pour la mère et l'ancien beau-père de la petite Fiona.
Et l'espoir de lever enfin les zones d'ombre qui demeurent aujourd'hui autour de la disparition de la petite fille. C'était il y a plus de 7 ans à Clermont-Ferrand. Tous les deux ont déjà reconnu que Fiona avait subi des coups mortels, mais se renvoie la responsabilité et surtout le corps de la petite fille n'a jamais été retrouvé. Jean-Luc Bougeon, vous avez assisté à cette première journée d'audience et vous avez découvert une Cécile Bourgeon métamorphosée.
Oui, d'abord physiquement, Cécile Bourgeon n'est plus blonde comme à son précédent procès, mais elle arbore des cheveux roux ondulés. Mais surtout, désormais sortie de prison, elle n'est plus sous anxiolytique ni sous l'emprise de la drogue comme au moment de la mort de Fiona. Résultat, c'est une femme vive et alerte qui répond au président depuis le début de l'après-midi. Une femme de 33 ans qui raconte avec un plaisir non dissimulé sa vie d'aujourd'hui. Son mariage il y a un an avec un Algérien en situation irrégulière rencontré sur un site de rencontre à peine sorti de prison. Puis la naissance de son quatrième enfant en mars dernier, une petite fille qui lui a immédiatement été retirée en raison de sa situation judiciaire et qu'il a même fallu soigner pour la désaccoutumer du Subutex, médicament substitué à la drogue que prend sa mère depuis des années. Une situation qui choque l'avocat du père biologique de Fiona, maître Charles Fribourg.
Elle, effectivement, a obtenu un enfant, sachant qu'elle en a deux autres dont elle ne s'occupe pas beaucoup. Elle s'est préoccupée d'avoir une nouvelle vie, mais pas de renouer avec ses enfants. Je pense que ça choque tout le monde, pas le seul.
Voilà Cécile Bourgeon qui avait auparavant, dans une brève évocation des faits, répété qu'elle n'avait porté aucun coup mortel à sa fille. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf, à côté d'elle dans le box, l'a au contraire exhorté à enfin dire la vérité.
Jean-Luc Bourgeon qui suit pour Europe 1 ce procès à la cour d'assises du Rhône.
En Allemagne maintenant, une voiture folle a percuté des passants dans une zone piétonne à Trèves.
Au moins deux personnes sont mortes. Le conducteur est un Allemand de 51 ans qui a été interpellé. Alors accident, geste d'un forcené ou possible acte terroriste, rien pour l'heure n'était carré.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h09, la suite de votre journal dans quelques secondes. Les propositions pour rompre l'isolement des agriculteurs, on en parle, et éviter les suicides.
Et puis Jean Le Cam et Kevin Escoffier, deux héros liés pour la vie.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal à 18h10, Isabelle Millet, avec une profession en souffrance depuis des années. On en parle régulièrement sur Europe 1, les agriculteurs.
On connaît leur charge de travail, l'absence de congés, bien souvent, leurs revenus extrêmement modestes, autant de facteurs qui conduisent à ce mal-être et dans les cas extrêmes à des suicides.
Alors, on n'a pas de chiffres récents, les précédents remontent à 2015. On découvrait alors qu'il y a dans la profession plus d'un suicide chaque jour.
Le gouvernement a commandé un rapport que remet ce soir un député du Lot-et-Garonne avec des propositions pour tenter justement de prévenir ces gestes irréparables. Un rapport qui s'inspire, Hélène Terzian, d'une expérimentation en Saône-et-Loire.
Effectivement, l'idée c'est de rompre l'isolement que subissent les agriculteurs. Après une vague de suicides dans le département en 2016, la Chambre d'agriculture a mis en place un système de mentorat d'échange entre des éleveurs, des viticulteurs et des chefs d'entreprise service des entrepreneurs, des avocats, un moment de conseil, d'accompagnement, mais surtout une façon de créer du lien humain, comme l'explique Bernard Lacour, président de la Chambre d'agriculture et lui-même éleveur bovin.
L'idée du mentorat, c'est bien de mettre en relation deux corps de métier totalement différents, mais avant tout des hommes et des femmes, et qui échangent en toute transparence parce qu'il n'y a pas de jugement. Donc c'est quand même une approche qui est assez intime et qui permet de se dire comment on peut faire en sorte qu'on puisse casser quelque part cette solitude.
Depuis 2 ans, il existe une quinzaine de binômes. Les agriculteurs et les chefs d'entreprise se rencontrent une fois par mois, toujours sur la base du volontariat et de façon bénévole. Est-ce que ce système a permis d'éviter des drames ? L'impact est difficile à chiffrer. Ce qui est sûr, c'est que agriculteurs comme chefs d'entreprise parlent d'une démarche très positive et complémentaire.
Merci beaucoup Hélène Terzian. 3,5 millions de personnes privées de télé et de radio aujourd'hui dans le Sud-Est après l'incendie d'un site de télédiffusion de France. Incendie dont l'origine criminelle est probable. Des enquêteurs sont sur place. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore écouter Europe 1.
Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas revenir, Isabelle, sur cet incroyable sauvetage de Kevin Escoffier la nuit dernière sur le Vendée Globe.
Son bateau a coulé en quelques secondes, réfugié sur son radeau de survie pendant près de 10 heures dans des conditions extrêmes. Il a finalement été repêché par Jean Le Cam et à peine remis de ses émotions, le navigateur miraculé a raconté son énorme frayeur à Patrick Cohen sur Europe 1 à la mi-journée.
En fait, le bateau s'est cassé en deux. L'eau, en une minute, est rentrée dans le bateau et j'ai pas eu beaucoup de temps de réagir. J'ai juste eu le temps de mettre ma combinaison de survie. Je me suis retrouvé dans le radeau. Alors, on fait pas le malin. Hein. Et puis, j'avais une balise, heureusement, dans mon ciré, ce qui a permis à Jean de me retrouver le soir. Donc, Jean est reparti pour pouvoir ajuster la toile et devenir manœuvrant. Et moi, j'ai passé la nuit dans le radeau à me faire bercer par les vagues qui venaient déferler sur le radeau. Puis, on a attendu le petit matin pour réussir un transbordement qui était réussi, mais ça a été quand même assez, assez chaud parce que les conditions, même si elles étaient meilleures, elles étaient toujours un peu compliquées quand même.
Tu m'étonnes qu'on ne fait pas le malin coincé dans les eaux avec son petit canot de sauvetage. Kevin Escoffier avec Patrick Cohen, c'était à la mi-journée sur Europe 1.
Corinne Boulot, on vous retrouve. Corinne, les deux navigateurs sont donc désormais ensemble sur le même bateau, ce qui n'est pas banal pour une course en solitaire. C'est quoi la suite, Corinne ?
Eh bien, après cette parenthèse, Isabelle, la course a repris ses droits. Jean Le Cam et les 3 autres navigateurs, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon, qui se sont déroutés hier soir, vont obtenir une compensation en temps. Kevin Escoffier reste pour le moment à bord du monocoque de Jean Le Cam. Son équipe et la direction de course étudient une solution pour le débarquer. L'opération pourrait avoir lieu le 7 décembre au nord des îles Kerguelen, au milieu de nulle part dans l'océan Indien. Un bâtiment de la Marine nationale, la frégate Le Nivose, chargé habituellement de contrôler les zones de pêche des îles françaises dans cette région, s'est proposé pour le récupérer. En attendant, le binôme Le Cam-Escoffier progresse à bonne allure vers la longitude du Cap de Bonne-Espérance qu'il devrait atteindre la nuit prochaine. Dans le respect de l'esprit de ce tour du monde en solitaire, Kevin Escoffier ne doit prendre part à aucune manœuvre à bord. Il peut échanger avec son sauveteur et croyez-moi, ils ne vont pas s'en priver, mais sans participer à la bonne marche du bateau. Et pour l'alimentation, il peut piocher dans les rations quotidiennes du bord, bien entendu. Le classement général a donc été chamboulé par le sauvetage de Kevin Escoffier. C'est désormais son cousin par alliance, Louis Burton, qui est 3e derrière Charlie Dalin et Thomas Ruyant, les 2 premiers dans l'océan Indien.
On espère qu'il a quand même le droit de lui préparer un café.
Oui, je pensais
Corinne
à la
Boulou.
Même chose.
Un mot de foot, la Ligue des Champions. L'OM, dernier de son groupe, déjà éliminé, reçoit l'Olympiakos. Les Olympiens sauveront-ils l'honneur après 13 défaites consécutives ? Coup d'envoi à 21h. On suivra ça en fil rouge sur Europe 1.
Et puis la disparition de la chanteuse Anne Sylvestre, à l'âge de 86 ans, connue principalement pour ses chansons pour enfants, elle était aussi une féministe engagée.
Oui, c'était une amoureuse des mots, créatrice effectivement des célèbres fabulettes, ces histoires réservées aux plus petits. Elle a également beaucoup chanté et défendu la liberté des femmes, souvent comparée à Brassens pour la qualité de ses textes et le fait qu'elle s'accompagnait à la guitare. Et la meilleure façon de lui rendre hommage ce soir, c'est de réécouter un extrait de l'une de ses chansons.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger.
Les gens qui doutent, signé donc Anne Sylvestre qui vient de disparaître à 86 ans.
On pourrait l'écouter encore longtemps, c'est beau. Merci Isabelle, à tout à l'heure, 18h30, le rappel des titres et à 19h pour le journal.